L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Abal patriarca.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actuel. Bonjour Carole.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien et toi ?
Oui, très bien. Alors aujourd'hui, c'est un grand sujet d'actualité, hein. C'est la réforme de retraite dont on parle. C'est un projet de loi qui pénalise les personnes qui ont des carrières hachées, qui ne s'attaquent pas aux inégalités salariales et qui donc pénalise fortement les femmes aussi. Nous allons en parler avec Gaëlle Briand de l'Union syndicale solidaire de l'Aveyron et avec l'économiste Anaïs Henegel avec qui nous avons pu nous entretenir cette semaine.
Et si on parle de retraite, on parle aussi de vieillissement. Alors on écoutera, nous, une capsule qu'on a réalisée d'une bénévole du planning familial qui est féministe et âgée, et elle nous parlera de sa condition. Mais tout de suite, c'est la revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
I worry the sun. Alors, pour cette revue de presse, on va commencer par le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la réforme des retraites. Ce mardi 7 février, encore 750 000 personnes sont descendues dans les rues dans toute la France suite à l'appel à la grève lancé par l'intersyndicale. À Paris, au début du cortège, le collectif féministe Les Rosies a annoncé que 9 de ses militantes ont été interpellées, dont 7 placées en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement. La raison, c'est qu'elles ont dansé leur chorégraphie de contestation « Nous, on veut vivre » devant l'Assemblée nationale. Des actions de soutien au collectif s'organisent sur les réseaux sous le hashtag Libérer les Rosies, comme le détaille Libération. Et on reste en France pour la prochaine brève qui parle de droits reproductifs. Si vous vous souvenez, dans cette revue de presse, on en avait déjà parlé, c'est la proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Eh bien, ce 1er février, le Sénat a voté à 166 voix favorables contre 152, une proposition de loi constitutionnelle visant non pas à inscrire un droit à l'IVG, comme les associations féministes le défendaient, mais plutôt, et je cite, « la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse en dans l'article 34 donc, de la Constitution. C'est un compromis, comme le précise le quotidien Le Monde, et il faudra bien voir si la réalité des faits suivra cette avancée législative. La question des droits reproductifs nous amène en Pologne, où le procès contre Justyna Wydrzyńska se poursuit, avec une autre audience qui s'est tenue le 6 février, comme le souligne le site de la RTBF. Wydrzyńska risque jusqu'à 3 ans de prison parce qu'elle a fourni des pilules abortives à une femme enceinte de 12 semaines qui subissait des violences domestiques, comme l'explique la newsletter Impact. Et toujours Impact rappelle que l'IVG est interdit en Pologne, sauf en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la vie de la patiente. Mais il est pratiquement impossible d'accéder à un IVG dans ce pays. La prochaine audience est fixée au 14 mars et on envoie naturellement tout notre soutien à Justyna. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire un don pour les frais judiciaires sur aborcidreamteam.pl. On vous mettra le lien. Et à propos d'IVG, il y a aussi une caisse du planning familial auquel vous pouvez donner, Carole.
Oui, tout à fait. On a une caisse IVG quand les délais sont dépassés parce que parfois les personnes arrivent et elles se rendent compte qu'elles sont enceintes trop tard et elles ne veulent toujours quand même pas garder l'enfant. Et voilà. Et du coup, vous pouvez la soutenir en faisant un don.
Merci. Et on mettra aussi ce lien-là du coup dans la page de l'émission. Et les histoires de condamnation injuste traversent les frontières, hein, ou plutôt elles n'ont pas de frontières. Donc on passe en Italie à Turin où la militante contre la ligne grande vitesse Turin-Lyon, Francesca Lucchetto, a été condamnée à 8 mois de prison. Sa faute, en fait, elle est accusée d'avoir accroché devant le tribunal de Turin une banderole féministe en solidarité à une autre militante qui était à ce moment-là interpellée par la police. Cette militante qui était interpellée aura été victime de violences policières à caractère sexuel. Et la banderole disait simplement « Si une est touchée, nous sommes toutes touchées ». Francesca Lucchetto n'avait d'ailleurs pas pu dérouler son drapeau en entier puisque le policier l'avait chargé, l'avait empêché. Et la page notav.info rappelle que ces faits remontent à il y a 10 ans et invite tout le monde à écrire une lettre ou un petit mot à Francesca qui est en prison depuis ce mercredi 7 février pour lui exprimer notre solidarité. Pour finir, on reprend une brève de la newsletter Impact qui nous rappelle que 3 militantes de droits des femmes d'Iran, de Turquie et d'Ukraine ont remporté le prix Hall of Palm début février. Il s'agit de Marta Shumalo, Narges Mohammadi et Eren Keskin. Elles ont récompensé, et je cite, « pour leurs efforts dans la lutte pour garantir la liberté des femmes à une époque où les droits humains sont menacés par la guerre, la violence et l'oppression ». Shumalo, elle travaille pour soutenir les victimes de violences sexuelles en Ukraine. Mohammadi est vice-présidente du Centre des défenseurs des droits humains en Iran et elle est actuellement en prison. Et Keskin a fondé en Turquie l'association d'aide juridique contre la violence sexuelle et fait campagne aussi pour les droits des Kurdes. Elle a été emprisonnée et menacée aussi. En tout cas, ces femmes portent beaucoup de courage. Elles mènent des combats importants et je vous invite à aller découvrir leurs combats sur le site du prix Hall of Palm et c'est déjà la fin de cette revue de presse.
Merci Sophia. Comme annoncé, le thème d'aujourd'hui, c'est la réforme des retraites et son impact sur les femmes. On a demandé un décryptage sur ce point à Anaïs Henegel, maîtresse de conférence en économie à l'Université de Rennes 2. On l'écoute et on fera réagir nos invités sur ses explications.
Bonjour Anaïs Henegel.
Bonjour.
Vous êtes donc maîtresse de conférence en économie à l'université Rennes 2.
Oui.
Et vous avez récemment écrit des réflexions autour de la réforme de retraite d'un point de vue féministe, montrant comme les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme. D'ailleurs, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Franck Riester, l'a reconnu vertement. Donc pour commencer d'une question un peu plus générale, est-ce qu'on a vraiment besoin de réformer le système de retraite en France ?
Oui, effectivement, c'est la première question. Alors en fait, si vous voulez, le besoin d'une... l'argument du gouvernement, il se fonde sur le rapport du COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites, donc qui a été publié en septembre dernier et qui montre alors plusieurs choses. En fait, le rapport du COR, il montre qu'il y aura effectivement un déficit assez minime, mais néanmoins existant, hein, d'ici 2030 du système de retraite, donc à peu près 12 milliards d'euros par rapport aux 350 milliards d'euros chaque année qu'on met dans le système. Mais le rapport du COR donc dit que ce déficit sera temporaire, donc normalement il va être résorbé un peu tout seul entre guillemets par les flux démographiques et surtout alors ce que montre le rapport du COR c'est que le déficit il n'est pas dû à une explosion des dépenses, c'est-à-dire que il y aurait un peu un mouvement incontrôlable de hausse des dépenses dans le système, mais le déficit il est plutôt dû à une baisse des recettes, c'est-à-dire que depuis 10 ans on fait un peu le choix politique hein, de baisser les cotisations sociales, notamment sur les bas salaires, et donc on transfère un peu de cet argent du système de protection sociale aux entreprises. Donc c'est un choix politique hein, qui a été fait. Donc pour répondre à votre question, la réforme, elle est, on en a besoin, oui et non, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement un déficit assez petit. Après, on peut faire d'autres choix politiques hein, que celui-là.
Voilà. Et en fait, une chose est sûre, c'est que les femmes, déjà, elles gagnent moins du fait des inégalités salariales et les inégalités dans l'accès à l'emploi. Et donc, leurs retraites sont forcément inférieures. Mais la réforme n'attaque pas à ce point.
Oui, voilà, exactement. Donc, en gros, en effet, on a à peu près... Alors, on a beaucoup d'inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, comme vous l'avez rappelé. Et donc, on a à peu près une différence. Enfin, on sait que les pensions de droit direct, donc les pensions de droit direct, c'est celles pour lesquelles on a directement cotisé, qui sont inférieures de 40% chez les femmes par rapport aux hommes. Donc c'est quand même une grosse, grosse différence. Alors après, on peut aussi inclure les pensions de réversion quand les femmes sont veuves, notamment, et touchent une partie de la pension du conjoint. Mais en tout cas, quand on regarde uniquement les pensions de droit direct, donc celles pour lesquelles les femmes ont cotisé, il y a une grosse différence. Et effectivement, on pourrait dire qu'une réforme des retraites, on va dire une perspective plus féministe, essaierait de s'attaquer justement à ces différences-là ou à ces inégalités-là. Mais dans le projet de loi proposé par le gouvernement, il n'y a absolument rien en ce qui concerne cet écart, en fait.
Et donc, dans la newsletter Les Glorieuses, qui vous a interrogé à ce sujet, vous sortez aussi un autre chiffre important, c'est que 10% des femmes de plus de 75 ans sont sous le seuil de pauvreté en France aujourd'hui, oui, contre environ, oui, 7% des hommes. Cette situation, donc, on l'a vu, est due aux inégalités salariales, mais aussi à d'autres facteurs, je suppose. Et quels sont ces facteurs et comment cette réforme pourrait aggraver cette situation ?
Oui, alors en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, le système actuel, il n'est pas du tout parfait. Hein, donc notamment, il y a un problème en effet de petites pensions et il y a un problème donc d'inégalité homme-femme. Il y a d'autres problèmes, mais en tout cas, il y a ces deux-là déjà. À quoi est due cette inégalité ? Eh bien, en fait, alors comme vous l'avez dit au début, dans votre précédente question, l'écart entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes touchent moins à la retraite et qu'elles soient ensuite plus souvent pauvres, il vient donc de leur carrière qui sont plus incomplètes que celles des hommes, parce que les femmes vont beaucoup plus s'arrêter hein, pour s'occuper des enfants, par exemple. Elle vient aussi du fait que les femmes ont des métiers qui sont généralement moins rémunérateurs, parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont moins rémunérateurs, comme les secteurs du soin à la personne, par exemple, qui sont des métiers où on gagne moins hein, que les hommes, généralement, que d'autres secteurs, et donc en particulier ceux où sont les hommes. Et puis elle vient aussi du fait que les femmes ont une progression de carrière qui est souvent moindre que les hommes. Donc en gros, on a vraiment des inégalités d'accès au marché du travail et des inégalités de salaire qui se cumulent tout au long de la vie et qui vont donner lieu à ces inégalités en matière de retraite. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prendre en compte un peu ces inégalités ? Ben déjà, on aurait pu supprimer un mécanisme qui est très très anti-féministe entre guillemets, enfin mais qui s'abat beaucoup plus sur les femmes. C'est le mécanisme de la décote. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu ce mécanisme.
Ben peut-être on peut rappeler justement ce que c'est.
Ben voilà. En fait, donc la décote. Alors imaginons que vous êtes donc une femme. Donc en l'occurrence, c'est mon cas, voilà. Donc je travaille jusqu'à un certain âge où j'atteins, imaginons que j'atteigne l'âge d'ouverture des droits, donc aujourd'hui 62 ans, si la réforme passe 64 ans, donc je souhaite m'arrêter directement, même si je n'ai pas cotisé l'ensemble des trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Donc par exemple, j'ai travaillé 40 ans sur les 43 ans requis, mettons. Eh bien, dans ce cas-là, je peux partir en retraite si j'ai atteint l'âge de départ. L'âge d'ouverture des droits, déjà ma retraite, elle va être proratisée. Donc je vais avoir une fraction hein, égale à 40 sur 43 dans mon exemple, du montant que j'aurais dû toucher en retraite à taux plein. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la proratisation. Le montant de la retraite, il est proratisé. Mais en plus, je vais aussi avoir une décote. Donc la décote, elle est de 5% par année manquante. Donc c'est un peu un système de double peine, si vous voulez. Donc si vous n'arrivez pas à cotiser les trimestres nécessaires, non seulement votre retraite, elle est proratisée, mais elle est aussi décotée, donc de 5% par an. Donc c'est vraiment un truc qui est très très brutal pour les gens qui subissent ces mécanismes de la décote. Et là où ça touche beaucoup plus les femmes, c'est parce que les femmes, justement, elles ont beaucoup plus de mal à accumuler le nombre de trimestres nécessaires parce qu'elles se sont arrêtées pour élever leurs enfants ou parce que elles ont eu différentes interruptions de carrière. Donc on remarque que les femmes sont les personnes qui sont le plus aujourd'hui touchées par la décote. Donc supprimer la décote, ça permet de supprimer la double peine et ça permet ça touche en majorité des femmes, mais ça touche aussi des hommes hein, qui peuvent également être concernés par le mécanisme.
Tout à fait. Et donc tout à l'heure, vous avez évoqué ce chiffre de 40%. Donc oui. Les pensions des femmes sont inférieures à 40% par rapport à celles des hommes. Mais oui. Cet écart, en fait, il est inférieur quand on regarde au salaire. Pourquoi cet écart, en fait, il double quand les femmes partent à la retraite ?
Ben oui, en fait, c'est parce que tout se cumule, quoi. Si vous voulez, il se cumule à la fois les inégalités salariales qui sont effectivement à peu près, on va dire, de 20. Alors, ça dépend des estimations, mais on peut estimer que le salaire des femmes, il est inférieur d'environ 20 à 25%, on va dire, à celui des hommes. Et donc, il y a à la fois ces inégalités-là qui existent, et puis ces inégalités de salaire, elles vont se cumuler avec les inégalités d'interruption, d'accès au marché du travail, donc le fait que les femmes, elles interrompent plus leur carrière, ou elles commencent plus tard, ou etc. etc. Donc, en gros, on va avoir vraiment le cumul de ces deux mécanismes qui va expliquer que l'écart est encore plus grand une fois arrivé à la retraite.
Et donc, pour conclure, vous dites donc que la suppression du système de la décote rendrait le système de retraite plus égalitaire. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous mettez en avant que le gouvernement pourrait prendre pour rendre le système de retraite plus égalitaire, plus féministe?
En fait, ce qu'il faudrait effectivement réussir à faire, c'est prendre en compte les inégalités sur le marché du travail. Déjà, on pourrait essayer de les résorber ou au moins de les atténuer, d'atténuer ces inégalités. Donc, par exemple, on pourrait, quelque chose à faire de manière assez urgente, mais pour favoriser la carrière des femmes en général et pas seulement leur retraite, c'est d'améliorer l'accès au mode de garde, parce qu'on sait que beaucoup de femmes ont des interruptions de carrière justement parce qu'il n'y a pas assez de mode de garde aujourd'hui. En France, ou au moins de mode de garde à un prix attractif, quoi, qui soit pas trop coûteux pour les femmes et pour les couples d'ailleurs en général. Donc ça, ce serait plus pour, on va dire, il y a pas mal de choses à faire sur la carrière des femmes en particulier, pour qu'une fois arrivées à la retraite, elles n'aient pas autant d'écart avec les hommes. Et ensuite, outre la suppression de la décote, ce qu'il faut regarder aussi, c'est comment les enfants sont pris en compte dans le calcul des trimestres, et donc essayer justement de compenser un peu le fait que éduquer des enfants, ça prend du temps, et c'est quand même encore souvent la femme dans les couples hétérosexuels qui s'en charge. Donc, regarder un peu comment le mode de calcul est fait. Et puis donc plus généralement et à plus long terme, il faudrait également éduquer les petits garçons et les petites filles pour que ces différences un peu de genre s'atténuent au fil du temps.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vient d'écouter Anaïs Henegel, maîtresse de conférence en économie et membre des économistes atterrés. Vous pouvez retrouver ses travaux et ses analyses sur atterrés.org. Et on passe enfin la parole à notre invité Gaëlle Briand. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Donc tu fais partie de l'Union syndicale solidaire de l'Aveyron, et solidaire est à présent mobilisée comme les autres principaux syndicats contre cette réforme des retraites. D'abord, comment tu réagis à ce qu'elle vient de nous expliquer, Anaïs Henegel?
Elle a quasiment tout dit sur ce qu'était la situation des femmes et ce que cette nouvelle réforme va... encore aggravé pour leur retraite. De toute façon, c'est... sur des points de solution aussi, nous allons être en total accord avec elle, quoi. De toute façon, le problème des inégalités femmes-hommes, la première raison, c'est l'inégalité salariale au départ, quoi. C'est les 25% là, de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et ça, ces inégalités, on a du mal à... Enfin, le gouvernement ne veut absolument pas s'y attaquer, très clairement. Ça fait deux réformes de suite qui nous expliquent que c'est bénéfique pour les femmes, la retraite à points et cette nouvelle réforme. Pas du tout, quoi. Effectivement, en plus, tout se surajoute au fur et à mesure. Enfin, elle l'a bien expliqué, je ne sais pas si je vais me répéter, mais la double journée de travail des femmes, ça fait qu'effectivement, elles sont plus demandeuses de temps partiel que les hommes. Et puis en plus, qui va prendre le temps partiel? Le plus petit salaire des deux. Forcément, on y revient, c'est les femmes qui s'y collent. Et donc, il y a ce problème des carrières hachées. Alors, pendant que Anaïs Henegel parlait, j'étais en train de me dire que, de toute façon, nous, on a pour revendication, c'est simple, la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demie de cotisation. On n'est pas les seuls à avoir cette revendication. Et j'étais juste en train de me dire qu'effectivement, c'est la huitième ou la neuvième réforme des retraites. Elle consiste toute à allonger la durée du temps de travail, enfin le nombre d'annuités, parce que bon, on parle beaucoup de 64 ans puisque les 43 ans étaient déjà dans les cartons, mais là le gouvernement va accélérer le fait de devoir travailler 43 ans, et plus il allonge, moins c'est possible d'avoir son total d'annuités au moment où on part à la retraite. Et effectivement, encore moins possible pour les femmes que pour les hommes, puisque tu as bien posé la question qui explique 25% de différence de salaire et on passe à 40% à la retraite, quoi. Donc ce mécanisme, il est très très clair, quoi.
Et juste, c'est quoi une annuité exactement?
C'est une année.
Ah, ok. Merci.
C'est juste, il faut travailler pendant un an. Alors, si on travaille à temps partiel, ça compte.
Oui.
Mais pour le calcul du montant de la pension, par contre, on prendra le montant des salaires, quoi. Donc,
En fait, quand on travaille en temps partiel, ça compte pas une année entière.
Si, ça compte une année entière pour pouvoir partir à taux plein sans subir la décote.
Oui.
Mais quand on calculera le montant de la pension, c'est
ça
en
fera moins.
Voilà.
Du coup, c'est parce en fonction du salaire. 35 heures.
Voilà.
Ok.
Tout à fait. Et donc, peut-être, en tant que syndicat, vous avez une expérience plus de terrain. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes travailleuses? Quelles sont les inégalités qu'elles subissent dans le monde du travail et à la retraite aussi?
Bah, là, justement, récemment, il y avait. On a eu une formation à l'intérieur de Solidaire et il y avait des femmes qui disent, de toute façon, bon, ce que disent tout le monde, de toute façon, là, c'est général, mais on n'y arrivera jamais à 64 ans ou 43 annuités. C'est vraiment une arnaque parce que, de fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Mais il y avait deux femmes et qui me disent, elle dit, puis c'est pareil, nous on est à temps partiel pour s'occuper des gosses, c'est jamais compensé. Les hommes commencent à s'y mettre, on les voit qui commencent à s'occuper des bébés dans la rue, etc. Et elle répond immédiatement en disant, mais tu vas voir que maintenant que les hommes ils s'y mettent, ils vont trouver un mécanisme de compensation pour eux.
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr que toutes nos conditions, elles sont souvent oubliées, quoi. Parce qu'il y a les inégalités de salaire, la double journée de travail des femmes, parce que toutes les études de sociologie, moi je sais pas, quand on parle comme ça, souvent, moi mon compagnon il fait, ou alors l'homme qui dit non, moi je m'y mets, mais bon, les études de sociologie, elles sont criantes. Hein,
elles trompent pas, oui.
Et puis c'est aussi une charge mentale qui est souvent portée plus par les femmes que par les hommes, oui. Même si on peut voir que les hommes peut-être s'y mettent un peu plus à faire des travaux domestiques.
En tout cas, quand ils s'y mettent, on le sait.
Non, mais ça, c'est sûr, quoi. Réfléchir, anticiper, c'est pour les femmes, quoi. Mais, et y a aussi le problème de tous ces métiers féminisés où le travail des femmes, faut qu'il soit invisibilisé. Le ménage, c'est pas du travail. S'occuper des enfants, c'est pas du travail. La lutte des paysannes qui travaillaient comme leur mari, là, où le Larzac est très moteur dans cette lutte, elles se retrouvaient à la retraite sans rien.
Oui.
Les femmes de commerçants, etc. Bon, bref, mais tous ces métiers, ces travails-là sont pas reconnus, mais quand une femme se présente sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Un métier féminisé, donc le ménage, prendre soin des personnes âgées, le commerce, beaucoup, l'enseignement aussi, et tout ça, c'est des métiers pénibles. Enfin, la plupart des métiers. Et Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je vais faire une digression. Mais à chaque fois qu'on nous présente une réforme de retraite, elle est pourrie. De toute façon, ça, c'est clair, quoi. Il faut travailler plus pour toucher moins, etc. Mais ils nous font une petite carotte. Il y a qui mettent en avant. Là, c'est les 1200 euros. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, peut-être. Donc, la réforme de 2010, pardon, avec Sarkozy, c'était la pénibilité. Et c'est ce pourquoi la CFDT avait signé, puisque c'est un de ces trucs, on va reconnaître la pénibilité, gna gna gna, bidule. En 2017, Macron arrive, il supprime 4 critères sur les 10. Et dans les 4 critères, vous avez le port des charges lourdes, Okay. Donc pour le soin aux personnes âgées, les postures pénibles, etc. Enfin bon, et sans parler de toutes les horaires décalés avec... Si on est dans le soin ou à l'hôpital, on travaille de nuit. Et ensuite, la crise du Covid a bien montré que c'était les femmes qui étaient ce qu'on appelle les premières de corvée, quoi.
Et ça n'a pas
été récompensé en plus.
Ouais.
Enfin, on leur a dit merci, mais il y en a plein qui ont été oubliés de la prime. Je ne sais même plus comment elle s'appelle.
La prime, quand il y a eu le Covid, là.
Oui, la prime Covid.
Elle peut s'appeler la prime Covid.
et oui, du coup, maintenant, le gouvernement, en fait, veut réintroduire ces critères de pénibilité et c'est ça que tu appelles la carotte. Ou en tout cas, il...
Non, ça, c'était la carotte d'il y a 13 ans. Parce qu'on en a la 8e ou la 9e.
Et là, c'est quoi la carotte aujourd'hui?
Leur carotte, c'était on va faire le salaire, la pension minimum à 1200 euros.
Là, c'est la carotte d'aujourd'hui.
Oui, mais là, ils ont un peu abandonné parce qu'elle était déjà dans la loi de 2003.
Okay.
Enfin, il y en a eu des réformes des retraites. Et elle n'a jamais été appliquée.
D'accord. Ouais, c'est un peu un leurre.
Et en plus, parce que, enfin, bon, ils sont pas mal, hein, ils ont peur de rien, hein, ça c'est sûr. Et en plus, pour toucher cette pension minimum, il faut avoir les 43 années.
Ok.
À taux plein et au SMIG. Donc même les temps partiels sont exclus.
Ouais.
Enfin bon, c'est et on a, je vais vous le retrouver, le minimum vieillesse qui est aux alentours de 1000 euros.
Et alors, qu'est-ce que ça serait selon vous les mesures à prendre pour que le système de retraite il soit vraiment égalitaire?
Bon, Anaïs Henneguet l'a dit, c'est arrêter le système de décote. Ça, c'est sûr que ça, c'est profondément inégalitaire. Excusez-moi, je reprends mes notes et mes lunettes. On a aussi comme revendication NUA Solidaire de faire tout un travail sur les inégalités salariales et donc de faire une surcotisation retraite. À chaque fois que les entreprises ne respectent pas l'égalité salariale femmes-hommes.
Ah ouais, c'est cool ça.
après, il y a aussi... ils l'ont aussi sur les temps partiels aussi.
Ok.
De surcotisation pour que...
Ça compense, fasse comme si on était à taux plein.
Voilà.
Et ça, vous le demandez aux entreprises ou au gouvernement? Enfin, qui pourrait le mettre en place?
Alors, nous, on va le demander aux entreprises. Je vais encore faire une digression. Parce que ce système des retraites par répartition, ça a été gagné en 45 par le Conseil national de la résistance et le programme des jours heureux. Parce que aussi le patronat était un peu à terre. Mais à la base, c'est quelque chose d'assez simple dans son... c'est qu'on va demander, patronat au gouvernement, mais quand on paye un travail, de payer aussi les situations de non-travail. La maladie, la retraite, enfin la vieillesse.
Congé maternité.
Congé maternité, etc. Accident du travail. Bon, bref. Et ce système-là, il est simple puisqu'on cotise sur les salaires et on redistribue immédiatement. Et il y a deux choses qui étaient insupportables, enfin qui sont insupportables, et pour l'État et pour les capitalistes. La première chose, elle est simple, c'est que cet argent échappe à la financiarisation. Okay. Donc, ils ne peuvent pas s'en mettre plein les poches au passage. Parce que c'est que ça, hein, les assurances privées, au lieu que ce soit redistribué comme ça. Et la deuxième chose, c'est que cet argent-là était géré par les travailleuses et les travailleurs. Il y avait des élections à la Sécurité sociale.
Okay.
Et donc, c'était géré par les caisses Sécurité sociale avec des élections. Ce n'est pas l'État.
Ah ouais.
C'est un choix. Et donc, cette autogestion des travailleuses et des travailleurs, c'est insupportable. Et pour l'État qui veut contrôler... Et pour le capitaliste qui veulent la main mise sur les travailleurs, et il ne faut surtout pas qu'ils puissent auto-organiser. D'autant plus que cette auto-organisation, elle fonctionne mieux.
Oui, parce que c'est les gens du terrain qui prennent des décisions pour le terrain, donc forcément ça marche mieux.
Oui, puis il y a cette histoire de ne pas redistribuer les dividendes.
Ouais, une, c'est sûr.
Là, la sécurité sociale est à 8% de frais de gestion, une assurance privée, c'est 17%.
Ah ouais.
Bah, il faut que le patronat, enfin, il faut verser aux ceux qui avaient l'argent au départ qui financent et qui veulent un retour sur investissement. Donc, à chaque fois, il y a une part de l'argent qui part dans les poches de personnes privées. Il y a des holdings, des fois, etc. Mais on va avoir exactement la même discussion avec une entreprise autogérée ou une entreprise privée, ou même un service public, où là, c'est l'État, c'est pas autogéré, etc. Mais a priori, l'État prend pas de dividendes. Donc, tout est réinvesti dans le, ouais, dans le service.
Tout à fait.
Normalement.
et est-ce que tu penses
donc
que...
Donc, c'était, oui, pour revenir à ta question, pourquoi j'ai... Parce que tout le monde pense que c'est l'État, la sécurité sociale, mais c'est pas l'État. Enfin, depuis Juppé, le budget de la sécurité sociale est voté au Parlement. Ce qui nous pose un problème parce que nous, on voudrait que ce soit les travailleurs qui gèrent, quoi.
Donc, il n'y a plus d'élection à la sécurité sociale des travailleurs et travailleuses. Donc,
je crois que c'était ça ta question. Nous, la chose à laquelle on tient, enfin, après, on peut en rediscuter aussi, c'est que ça passe par les cotisations salariales et que ce soit nos salaires, notre argent.
Pour que la réforme soit égalitaire, c'est un des autres points. La question, c'était, qu'est-ce que ce serait pour vous, votre syndicat, un système de retraite vraiment égalitaire ?
C'était ça la question. Oui. Bon, déjà, c'est sûr que géré par les salariés eux-mêmes, ce serait beaucoup mieux, quoi.
Ouais. On t'a parlé aussi des 37 ans de cotisation, 37 annuités, pardon.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on veut pas passer sa vie au travail.
ouais,
il y avait le slogan des Gilets jaunes avec « Travail, consomme et ferme ta gueule ».
Oui, c'est sûr. T'as dit arrêter le système de décote, surcotisation des retraites quand on est en temps partiel, et géré par les salariés. Là, t'as dit en troisième point. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Bon, après, il y a... De toute façon, il y a plein de leviers d'action de... mince, je repensais à quelque chose que... ça reviendra. Il y a aussi tous les services, si c'est ce qu'elle avait dit Anaïs Henneguet, remettre en place des services collectifs pour la petite enfance et aussi, oui, pour la dépendance, fait. Parce que c'est pareil, on est confronté. Alors, il y a une période de... Les femmes, il y a une période de notre vie où on s'occupe des enfants, si on en a... Donc, on va sacrifier notre salaire, etc. Et après, il y a la dépendance et puis on s'occupe des personnes âgées. Alors, ça, c'est des temps partiels de droit dans les entreprises, mais qui ne sont absolument pas compensés financièrement, quoi. Donc, déjà, des compensations financières par rapport à ça, enfin, repasser à taux plein, ou etc. Mais aussi mettre en place des vrais services publics et pour la petite enfance et pour la dépendance, hein, avec des professionnels ou le handicap, puisque moi j'ai une petite fille handicapée aussi, donc c'est...
Ok, tout à fait. Et sur ces différentes revendications, quelle est la marge, tu penses, que vous pouvez avoir de négociation, disons, avec le gouvernement ? Est-ce que tu penses qu'ils vont reculer sur certains points face à la pression, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves, ou tu penses qu'au final, la réforme, elle va passer ?
Nous, on pense qu'on a tellement reculé depuis la grande offensive du libéralisme avec Thatcher et Reagan que là, on est à un point où on sent vraiment la colère qui monte dans la rue, mais c'est pas possible, ils veulent nous faire mourir au travail. Plus la crise écologique, qui est quand même pour lequel ils ne font strictement rien, et on a les bénéfices de Total Exxon, Total pour la France, Exxon pour l'Angleterre, qui viennent de sortir.
Oui, et d'ailleurs, c'est lié aussi à la réforme des retraites. Disons que... Voilà, il y a des profits des grandes entreprises qui ne rentrent pas en compte dans cette réforme-là. Tu l'as aussi dit par rapport aux dividendes.
Mm-hmm. Ah oui, tu veux dire que s'ils donnaient de l'argent sur ce qu'ils gagnaient pour les retraites, on serait tranquille. C'est ça que tu veux dire ?
Peut-être, oui. Okay.
Mais là, on ne sait pas. Là, les syndicats appellent à... à la reconduction à partir du 7, mais je viens de le lire juste avant d'arriver.
Du 7 mars, du
coup. Oui, sur le national, avec, ça c'était dans les clous dès le départ, une grande journée féministe, et nous, on va, c'est quelque chose qu'on essaye de lancer depuis plusieurs années, un appel à la grève sur le 8 mars, et au moins à stopper le travail à 15h40, puisque c'est ce qui reflète les inégalités de salaire homme-femme. Et après, tout ce qu'on sent là, en tout cas des différents syndicats, c'est que ça peut s'arrêter maintenant ou ça peut partir comme ça. Et nous, on ne sait pas trop. On a du mal à mettre en place les assemblées générales parce que c'est quand même là où la parole se libère et où les gens prennent conscience de leurs conditions de travail. C'est sûr qu'en plus... En plus, les conditions de travail sont largement dégradées depuis 10 ans. Nous, ce qu'on reçoit comme retour, c'est une vraie souffrance au travail, une perte de sens énormément, mais dans tous les domaines. Hein, c'est pas que... Donc, on ne sait pas, mais bon, nous, on va y travailler, en tout cas.
Bien sûr. Et d'ailleurs, du coup, la prochaine...
Excusez-moi, oui, ce qui est sûr pour nous, c'est que sans blocage de l'économie, ça m'étonnerait qu'on gagne. Okay. Parce qu'on est vraiment à un moment charnière en plus où les capitalistes ne veulent rien perdre de tout ce qu'ils ont gagné depuis 40 ans. Et des fois, ils le disent, hein, l'écologie, on le sait, mais si on veut faire quelque chose, il faut remettre en cause le système.
Bien sûr.
Donc, il faut faire la grève.
Ah, faudrait faire la grève écologie, écologiste et la grève des salaires. Enfin, tout est lié, de toute façon, c'est...
Et donc, d'ailleurs, vous avez prévu donc, une autre journée le 11 ce samedi. Mm-hmm. Et pour l'après, tu as parlé du 7 mars. Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous à Aveyron, par exemple?
Là, on va en discuter. On compte occuper le terrain en Aveyron. Bon, déjà, faire des temps de présence sur les marchés avec l'explication sur la réforme. On a... Alors, l'intersyndicale, elle a lieu maintenant, là. C'est à 10h30, l'intersyndicale départementale. Bon, je peux vous dire les propositions que nous, on a faites. C'était d'occuper le terrain au maximum pour renvoyer ça vers l'union locale, enfin, organiser ça au plus près du terrain. Nous, je pense qu'on va faire une soirée diffusion ou les jours heureux ou la sociale. Enfin, on a des petits événements comme ça qui sont... Ça va s'organiser. Il y a un appel à la grève aussi là, pour le jeudi 16 prochain.
Et on peut rappeler aussi qu'il y a une journée de mobilisation ce samedi 11. Mm-hmm. Et qu'en Aveyron, le rendez-vous est donné à Rodez à 14h.
Oui.
Voilà.
Et que des bus sont organisés depuis Saint-Aff. Alors, on vient de me dire qu'à Saint-Aff... Enfin, bon, ça peut bouger, donc je vais rien dire.
Peut-être qu'il y aura des bus.
Non, il y a déjà des bus, mais ils seraient pleins, mais qu'on ne pourrait pas en avoir d'autres. Mais bon, il y a des bus de Millau et de Saint-Afrique.
Et du coup, c'est comme ça, quand on veut aller à la grève et qu'on n'a pas de moyens de transport, il y a un numéro à contacter ou...
Ouais, et je ne l'ai pas avec moi, ça c'est pas
sérieux. Ah, on le mettra sur le site, c'est pas grave.
Mais normalement, on l'a diffusé partout, donc...
Oui, ok. C'est juste pour ça.
En tout cas, merci beaucoup Gaëlle Briand.
Oh bah, avec plaisir.
Donc, je rappelle, tu fais partie de l'Union syndicat solidaire de l'Aveyron. Et comme on vient de le dire, donc, la prochaine journée de mobilisation, c'est le 11 février à Rodez à 14h. Et maintenant, Carole, on écoute quelque chose dans le thème.
Tout à fait dans le thème. En fait, on écoute les Roses qui ont été évoquées dans la revue de presse de Sophia. Voilà, en pleine action. Bon, c'est remixé pour que ça soit un peu plus écoutable que ce qu'on enregistre directement en manif. Mais voilà, c'est passé en manif la semaine dernière.
C'est « Nous, on veut vivre ».
Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. Nous, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit régression, ils veulent moins de défense publique, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas
partager, survivre. Vive dignement, vive décemment, profiter de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Justice. Pour faire autrement, et si par exemple on travaillait mieux et moins longtemps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper, et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Et en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches ok, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, c'est mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre jusqu'au tombeau. Pour les polos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches ok, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre. Vive dignement, vive décemment, profitez de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous on veut vivre. Vive dignement, vive décemment, profitez de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Justice.
C'était « Nous, on veut vivre », le tube des Rosies contre la réforme des retraites. D'ailleurs, je vous invite à regarder la chorégraphie aussi. Et vous êtes toujours dans l'actuel sur Radio Larzac. On parle aujourd'hui des réformes de retraite et des injustices en rapport aux femmes.
Et l'âge.
Et l'âge, tout à fait. Parce que du coup, Carole, tu as enregistré une capsule.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai interviewé une de nos bénévoles, pardon, qui a 70 ans, qui s'appelle Nicole, et qui est féministe. Et voilà, je l'ai questionnée sur son féminisme et son âge. Voilà.
Et on l'écoute.
Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors, je t'ai conviée à un petit interview, parce qu'il y a des questions qui m'intéressent pas mal autour de qu'est-ce que c'est que d'être féministe et âgée en même temps. Parce que nous, dans le mouvement du planning familial, en fait, c'est quand même beaucoup de féministes âgées, parce que vu que le mouvement a plus de 60 ans maintenant, c'est des personnes qui ont participé au MLAC, qui ont lutté pour l'accès au droit à l'avortement.
J'ai 70 ans, disons les choses telles qu'elles sont. Je suis née dans la banlieue parisienne avec deux sœurs, donc trois filles. Et mon papa, parfois s'énervait après les bonnes femmes qu'il avait à la maison. Donc ça, c'est le tableau de mon enfance, qui a été plutôt favorisé par ailleurs. Jeune femme, à la fin du lycée, j'ai eu envie de militer, mais plutôt du côté politique. Après, je suis partie de chez mes parents, je n'ai pas fait d'études, j'ai zoné, on va dire, pendant un an. Et à la fin de cette année-là, je suis rentrée à l'école d'infirmière à Paris. Et là, je ne me sentais pas féministe du tout, ni l'inverse d'ailleurs, mais j'ai été sollicitée par des étudiantes qui avaient des problèmes de grossesse non désirée. Donc, pour aider, et parce que j'étais militante politique, j'ai cherché des solutions, j'ai trouvé les gens du MLAC, et ça m'a emballée, j'ai adhéré au MLAC, et je me suis mise moi-même à faire des IVG illégales. C'était des groupes locaux. Donc moi, j'étais dans un groupe qui était attaché à l'hôpital où je faisais mes études, soutenu par la CFDT, qui était très progressiste et qui gardait, on peut dire, cachait notre matériel dans leurs locaux. Et il y avait certains étudiants en médecine, peu d'ailleurs, et un médecin diplômé, une infirmière dans notre groupe. Et ils nous formaient, nous, les quelques bénévoles que nous étions. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une IVG, on se retrouvait à trois en général. Et c'était des IVG par aspiration qu'on faisait. Et comme c'était difficile de trouver du matériel, on fabriquait nos canules nous-mêmes.
Waouh ! Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tu es devenue féministe ?
Oui. Mais l'articulation avec mes options politiques, c'est que j'étais sympathisante d'un groupe d'extrême gauche qui avait un volet féministe qui s'appelait le Cercle Elisabeth Dimitrieff. Et j'avais très envie d'intégrer ce cercle. Mais on m'a dit, ah non, 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 ici on ne fait pas ce qu'on veut. Toi, tu es à l'école d'infirmière, on n'a personne là-bas. Donc ton boulot, ça va être de militer là-bas. Donc, du coup, je suis, sur plan théorique, je suis assez faible, mais ça n'a jamais été mon intérêt principal. La théorie, je suis plutôt terrain.
Et du coup, après le MLAC, tu as continué à militer comme féministe ?
Alors, je dirais non, pas spécifiquement, parce que je suis devenue syndicaliste très engagée. Que ça m'empêchait pas d'avoir mes idées, mais je militais pas d'une manière spécifique féministe. Donc mon engagement syndical, je l'ai eu pratiquement toute ma vie, mais au moment de la naissance de mes enfants, alors c'était peut-être essentiellement axé sur le bien-être du bébé, mais j'ai cherché des bonnes conditions pour moi aussi, où les femmes sont respectées, on respecte la physiologie, et pour mon deuxième enfant, elle est née à la maison. Et là, que ce soit pour elle ou pour moi ou pour toute la famille, c'était des bonnes conditions. Donc, je recherchais ça. Et puis, dans ma vie de tous les jours, ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir dans le métro parce que je voyais un homme qui s'approchait trop d'une jeune fille qui ne savait pas quoi dire. J'ai même été agressée dans ce cadre-là. Et sinon, de m'arrêter dans la rue le soir parce que je voyais une femme se faire taper et de l'emmener aux urgences. Voilà, et de passer la nuit aux urgences avec elle. Pour l'aider à surmonter ça et comprendre sa situation. Donc en fait, le féminisme, c'est presque tous les jours.
Et je pensais notamment à une problématique que vivent et les femmes âgées, et les hommes âgés, et les personnes trans âgées, c'est l'âgisme. Est-ce que toi, c'est une discrimination que tu vis ou ressens, ou les deux ?
Je ne me suis pas sentie âgée ni stigmatisée avant d'avoir 60 ans. Quand j'ai eu 60 ans, ça se passait très bien. J'avais l'impression que c'était totalement indolore. Jusqu'à ce que, quelques semaines après, je rencontre un groupe de stagiaires et je me présente en disant « j'ai 60 ans ». Et là, boum, à l'intérieur, il y a un truc qui est tombé. Et j'ai réalisé vraiment que j'avais 60 ans. Et là, c'était un petit peu plus difficile. Voilà, un déclenchement. Quelques temps après, un feu rouge, j'étais arrêtée en voiture et il y a un jeune qui voulait traverser alors que c'était pas le moment, qui m'a traité de sale vieille. Là aussi, ça a été un petit peu difficile. Sinon, j'ai la chance d'avoir une vie assez équilibrée et de pas être en dépendance de qui que ce soit. Donc, voilà, ma vie sociale, je me dirige plutôt vers les gens que je trouve agréables et sympathiques. Après, il y a une discrimination positive. Par exemple, les gendarmes m'arrêtent en voiture et me disent « Madame, est-ce que vous avez bu ?» Donc, je réponds « Non ». « Ah bon, allez-y, ça n'a même pas soufflé dans le ballon, alors qu'en réalité, j'avais bu.
» Et oui. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu as le sentiment que, par exemple, mais bon, après, si tu es moins dans des groupes de féministes théoriques, mais est-ce que tu as le sentiment, même au quotidien, que ta parole a moins de valeur ?
Oui, ça me fait rappeler quelque chose qui est que pendant la construction de ma maison, je pense que les hommes qui travaillaient sur le chantier m'ont un peu embobiné.
Ouais.
Ils ont dû se dire une femme et en plus de cet âge-là, elle va pas trop regarder ce qu'on lui raconte. Donc là, et de fait, il y a eu des choses regrettables. Je pense qu'ils ont un peu abusé. Après, c'était à moi aussi de border le truc un peu mieux. J'ai fait confiance, quoi. J'ai fait confiance. Et sinon, l'architecte, lui, voulait à tout prix faire des grandes portes pour le jour où je serai en fauteuil roulant.
Alors que tu lui as pas demandé.
Ben non. En plus, je lui disais, ben non, là, c'est un petit village très isolé. Quand je commencerai à être un peu brinque-ballante, je ne resterai pas là. Hein. J'irai ailleurs. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça.
Ok. Eh ben, merci.
Eh ben, avec plaisir.
Chouette.
Donc, on est de retour dans l'actuel et on vient d'écouter Nicole, une bénévole du planning familial. On la remercie pour avoir parlé avec nous. Et donc, Carole, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre parler de tout ça, du vieillissement et du regard que la société porte envers les femmes âgées.
En fait, c'était la vie de Nicole, surtout, et sa place en tant que femme âgée. Mais comme elle le dit, en fait, dans l'entretien, elle a quand même une place privilégiée dans la société. Elle est plutôt d'une famille aisée. Du coup, ça change pas mal de choses. Et voilà. Et donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intersectionnalité. Et là, elle a parlé un peu des violences qu'elle subit par rapport à son âge. Mais en fait, étant donné qu'elle est en chouette condition de vie, elle en subit moins, je pense, que d'autres personnes qui auraient d'autres discriminations qui s'accumulent. Genre, voilà, par exemple, des problèmes économiques ou des choses comme ça, ou de race, ou... Voilà.
Bon, en tout cas, c'est chouette d'entendre qu'elle est tout aussi impliquée aujourd'hui comme hier dans des luttes féministes.
Ouais, elle a trop la pêche.
Super. Et donc, on arrive doucement à la fin de cette émission. Mais avant, on vous rappelle qu'il y a le 8 mars qui approche.
Tout à fait. Et le 8 mars, nous, en fait, on fait la grève, mais on travaille en même temps. Parce qu'en fait, on est salariés et féministes au planning familial. Du coup, le 8 mars, on affiche qu'on fait grève, mais on organise un événement avec Radio Larzac, Myriade, Barbouille, Trait d'Union.
Les centres sociaux.
La mairie.
Oui, avec plein d'associations en fait, qui se sont rassemblées pour proposer des ateliers d'animation.
Tout à fait.
Cette journée-là.
Un atelier du planning sur les inégalités filles-garçons, ouvert de 15 à 99 ans. Et un atelier choral.
Oui, toujours de 14 à 16 heures. Tout ça, ce sera au Créa d'ailleurs.
Tout à fait.
À Millau. Et aussi une séance d'écoute à partir de 16 heures, où on écoutera des portraits de femmes un peu comme celui de Nicole, que Carole et moi, on va enregistrer auprès de différentes associations. Et à 18h, toujours dans la cour du CREA, il y aura un moment de rassemblement final avec des chants et un micro ouvert. Et il y aura aussi la librairie du planning.
Tout à fait, où il y a des bouquins féministes à consulter. Et alors du coup, vu que toutes les femmes vont faire la grève à partir de 15h45, eh ben, vous pouvez venir nous voir dans la cour du CREA. Il y aura des stands, il y aura la bibliothèque. On va faire une banderole collective où vous pourrez inscrire ce que vous voulez. Vous pourrez manger des petits trucs, boire des petits trucs et voilà, et participer à un micro ouvert à 18h pour dire ce que vous avez à dire pendant la grève et pour cette journée féministe.
Voilà, donc on vous donnera plus d'informations et le programme complet aussi dans les prochaines semaines. Et il nous reste que remercier nos invités, donc Anaïs Sénégal pour ses éclairages sur la réforme des retraites. Et merci à Gaëlle Briand de Solidaire.
J'aurais voulu rajouter aussi que nous à Solidaire, on fait un travail de terrain dans les entreprises et la fonction publique sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Et que de la même façon que le gouvernement ou la société patriarcale invisibilise le travail des femmes et les salaires, là aussi, on soulève, dès qu'on libère la parole, on soulève des choses incroyables. C'est absolument partout et il faut absolument lutter contre, quoi. Parce qu'ils ont trop tendance à tout mettre sous le tapis.
Tout à fait, merci.
Mais en tout cas, ouais, du coup, vous pouvez aussi vous rapprocher de Solidaire si jamais vous vivez des inégalités sur votre lieu de travail, des
bien
violences
sûr.
Aussi.
Vaut mieux passer un coup de fil pour rien que pas passer de coup de fil du tout.
Tout à fait. Merci à Nicole pour avoir accepté de parler avec nous. Et merci beaucoup à Alex aujourd'hui qui est à la technique. Et on vous laisse avec une autre chanson.
Oui, Brigitte Carole. Fontaine, la vieille qu'on préfère. Voilà, sa chanson Prohibition qui dit qu'elle est vieille et qu'elle nous emmerde. Voilà.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole écrite. Fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain. Jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes. Précieux, je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans roi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.